CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende qui vous présente ses parcours inspirants à l'origine de grandes réussites économiques. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, l'auteur des livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors Sylvain, rien ne prédisposait cette modeste fille de lingère et de colporteur à réussir, à s'imposer dans le monde du luxe et des affaires. Et pourtant, Coco Chanel est désormais une des figures les plus emblématiques du monde de la mode. Comment est-elle arrivée à se forger une réputation et à forger aussi la renommée de sa maison? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Gabrielle Chanel, qui ne s'appelle pas encore Coco, est née en 1883 à Saumur.
Oui, en effet, elle est née à Saumur, j'ai presque envie de dire un peu par hasard, puisque son père était un colporteur, un marchand forain. Et à ce moment-là, il s'était installé à Saumur avec sa femme en essayant de se lancer notamment dans les commerces du vin de Loire. Donc un commerce qui n'a pas très bien marché, puisque son père était donc un marchand forain, mais il passait plus de temps, disons, au bistrot qu'à faire marcher son affaire. Et donc la famille a toujours vécu, on va dire, dans une certaine modestie, même dans la pauvreté. Et donc la mère de Gabrielle, Jeanne, à côté, essayait de faire des lessives, des ménages, des petites tâches un peu ingrates et pénibles pour essayer de faire vivre un petit peu la famille. Donc c'est une enfance, on va dire, plutôt difficile et pas forcément très joyeuse. Donc la famille se déplace à de nombreuses reprises, un peu au gré de... des affaires donc du père qui a un peu des idées, qui se dit je vais essayer de m'installer là dans tel commerce ou ailleurs dans tel autre commerce. Bon, ça marche jamais très bien, il faut bien le dire. Et donc la famille finit par s'installer à Brive-la-Gaillarde où la mère de Gabrielle, donc Jeanne, décède puisqu'elle était malade, elle était asthmatique, elle n'avait pas les moyens de se soigner convenablement. Donc Jeanne et ses frères et sœurs se retrouvent donc orphelins. Et donc le père, qui n'avait pas forcément une âme, un esprit familial très développé, qui ne s'est jamais, il faut le dire, trop préoccupé de ses enfants, donc va placer ses filles en orphelinat. Donc Gabrielle se retrouve avec une sœur donc à l'orphelinat de l'abbaye d'Aubazine, donc en Corrèze, un orphelinat religieux assez disons strict et austère, dans lequel elle va passer plusieurs années, apprendre, on va dire, à lire et à écrire un peu les rudiments de l'éducation.
Oui, mais à l'orphelinat, Gabrielle n'excelle pas trop quand même.
Non, c'est plutôt une enfant, une adolescente, disons plutôt indisciplinée. Suivre les ordres, les consignes des bonnes sœurs, c'est pas forcément ce qui lui plaît le plus. Elle a un peu son caractère à elle. Elle l'aura toujours d'ailleurs. Sa vision des choses et donc les relations avec les sœurs sont pas forcément très, on va dire très très apaisées. Donc c'est pas forcément une période très joyeuse pour elle, parce que c'est un environnement assez austère dans lequel elle ne se plaît pas. Alors il y a un point qui peut être intéressant et qui reviendra plus tard, c'est que le logo de Coco Chanel serait, le conditionnel est important, serait inspiré des vitraux de cette abbaye.
Tu dis serait d'ailleurs parce que même tout autour de cette période dans l'orphelinat, ça prête un peu à débat, même encore aujourd'hui.
Oui, alors chez les biographes spécialistes de Gabrielle Chanel, il y a un débat sur quelle a été exactement sa vie entre le moment où sa mère est décédée et le moment un peu plus tard, on va le voir, où elle chantait dans les cabarets à Moulins. Alors, disons que la version de l'abbaye d'Aubazine est la version qu'on retrouve le plus souvent, mais certains biographes la remettent en cause. Elle aurait fui un mariage arrangé, elle aurait habité chez des tantes. Enfin, il y a plusieurs versions qui circulent, c'est un peu...
Ça, on le saura presque jamais, j'ai envie de dire.
On le saura probablement jamais, puisque, bien sûr, Gabrielle Chanel, désormais, est décédée. La plupart des personnes qui l'ont connue à cette époque sont décédées, donc on le saura probablement jamais, mais voilà, il y a un peu une part de mystère dans son adolescence.
Tu dis donc qu'on n'est pas très sûr de cette période, mais en 1903, on sait environ la situer. Où elle est ?
Voilà, donc autour de 1903, elle est installée à Moulins, où elle chante dans des cabarets, elle gagne un peu sa vie en faisant à la fois un peu des petits travaux de couture, et le soir, elle chante dans des cabarets, notamment la chanson « Qui a vu Coco ?», qui lui donnera son surnom de Coco. Et c'est là qu'elle va faire une rencontre très importante, puisqu'elle va rencontrer Étienne Balzan, donc qui fait son service militaire à Moulins et qui est le fils de riches industriels, donc quelqu'un, on va dire, de la haute société, de la haute bourgeoisie, qui va, on va dire, tomber amoureux de Gabrielle Chanel, même si les relations entre eux seront toujours un petit peu compliquées. Parfois ils s'aiment, parfois ils s'aiment pas, c'est un peu l'amour vache, etc. Mais toujours est-il que Gabrielle Chanel va donc rejoindre Étienne Balzan dans sa propriété du côté de Compiègne, quand il aura fini son service militaire. Et là, elle va rencontrer le monde de la haute bourgeoisie, qu'elle connaît pas du tout. Et donc, c'est par l'intermédiaire d'Étienne Balzan qu'elle va apprendre, on va dire, les codes sociaux de la haute société, et qu'elle va commencer à faire ses premières créations, ses premiers chapeaux, commencer à adapter son style, un style très particulier qui parfois irrite certains, parfois en séduise d'autres. Donc c'est vraiment par l'intermédiaire d'Étienne Balzan qu'elle va, disons, sortir de sa condition et fréquenter un autre monde que sa naissance ne la prédestinait pas à fréquenter, en fait.
Parce qu'il faut dire, et ça c'est un trait de sa personnalité, c'est que déjà à l'époque, elle était assez sûre d'elle et elle savait qu'elle ne voulait pas rester dans la condition dans laquelle elle évoluait à l'époque.
Oui, alors elle ne savait pas forcément précisément ce qu'elle voulait faire, mais c'est sûr qu'elle n'avait pas l'intention de rester une modeste couturière ou lingière toute sa vie. Et donc Étienne Balzan, c'est un peu un tremplin pour sortir de cette condition, en effet.
Elle fréquente donc, grâce à lui, un peu la riche société, et elle va faire une autre rencontre importante.
Voilà, elle va rencontrer un Anglais qui s'appelle Arthur Capel. Donc il y aura bien sûr une histoire d'amour entre eux, ce qui est un peu compliqué, puisqu'Arthur Capel a déjà un mariage arrangé, prévu en Angleterre, avec une riche Anglaise. Mais Capel va jouer un rôle très important, puisqu'il va lui encore ouvrir des nouvelles portes, et notamment l'aider à lancer sa première entreprise.
Oui, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est son indépendance. Elle veut être indépendante.
Oui, l'idée de faire un riche mariage et de passer toute sa vie à boire le thé avec des riches bourgeoises et à élever ses enfants, ou à faire élever ses enfants par des gouvernantes, c'est pas du tout ce qui lui plaît. Elle a un caractère bien trempé et elle sait qu'elle veut gagner sa vie, être indépendante. Elle a pas du tout l'intention de se marier et de mener une vie de famille rangée toute son existence.
Et donc, grâce à cette rencontre, elle va rapidement ouvrir en 1909 sa première boutique.
Voilà, donc elle a une fibre artistique assez développée. Au début, elle fait principalement des chapeaux. Hein. C'est plus tard qu'elle fera des robes et d'autres types de vêtements. Et donc, elle a l'idée de lancer une boutique de chapeaux, mais bien sûr, elle n'a pas les fonds. Elle vient d'un milieu très modeste, elle n'a pas l'argent pour le faire. Et c'est Arthur Capel qui va lui avancer les fonds et donc qui lui permet d'ouvrir sa première boutique de chapeaux. Donc, au début, boulevard Malesherbes à Paris, et assez rapidement, une autre boutique, rue Cambon. Donc rue Cambon, qui est toujours aujourd'hui le siège, l'emblème de la maison, de l'adresse emblématique de la maison Chanel.
Et donc du coup, rapidement, cette boutique, c'est le succès.
Oui, le succès est assez rapide. Elle apporte un style assez nouveau, assez épuré, assez dépouillé. À l'époque, c'était les chapeaux avec toutes les plumes, les fanfreluches, etc. Elle a un style beaucoup plus sobre qu'elle aura toute sa vie et qui plaît très rapidement à une large clientèle. Et le bouche à oreille fait assez vite son effet. Et donc cette première boutique, donc d'abord boulevard Malesherbes, ensuite rue Cambon, fonctionne assez bien. Et ce qui va très bien marcher, c'est une autre boutique qu'elle ouvre à Deauville, donc toujours sous les conseils d'Arthur Capel et grâce à son appui financier. Donc en 1913, elle ouvre une boutique à Deauville. Et en fait, la guerre va lui...
C'est une aubaine pour elle, la
guerre. Va lui servir de tremplin, paradoxalement, puisque donc en 1914, les armées allemandes s'approchent de Paris et beaucoup de bourgeois parisiens, de riches parisiens, fuient Paris en disant Paris va être envahi. Et ils fuient où ? Notamment à Deauville, où ils ont des résidences secondaires. Et toutes les boutiques de luxe ou de haut de gamme de Deauville avaient fermé, parce que bon, c'était la guerre et les ouvriers n'étaient pas forcément là, etc. Sauf la boutique Chanel. Et donc, c'est le jackpot, puisque tous ces riches parisiens qui arrivent à Deauville, il faut bien qu'ils trouvent quand même quelque part où acheter des chapeaux et des vêtements, puisque là, elle commence à se diversifier un petit peu au-delà des chapeaux. Et donc, effectivement, la guerre, paradoxalement, a été une aubaine pour Chanel.
Et cela, même si le style de Coco Chanel ne plaît pas obligatoirement à tout le monde.
Oui, alors c'est vrai que certaines clientes, ce style un peu nouveau, un peu épuré, ne leur plaisait pas forcément, mais à la limite, elles arrivaient à Deauville et puis il n'y avait plus que ça d'ouvert, donc par la force des choses, elles étaient un peu obligées d'aller s'habiller chez Chanel.
Et elle réitère un an après à Biarritz.
Oui, donc en effet, il y avait donc une partie des riches parisiens qui étaient partis à Deauville, une autre partie à Biarritz. Et donc, elle va refaire un peu la même chose à Biarritz l'année d'après en, y ouvrant une autre boutique. Alors là, avec un peu moins de succès, puisque bien sûr, d'autres couturiers avaient flairé le filon et elle n'était pas seule à Biarritz. Mais effectivement, elle va essayer de refaire la même stratégie un an après à Biarritz.
Ça va avoir évidemment une incidence sur Coco Chanel, c'est que ça devient une personnalité en vue.
Oui, donc au lendemain de la guerre, c'est une des couturières les plus en vue. Donc Paul Poiret, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui était le grand pape de la mode au début du XXe siècle, est relégué aux oubliettes en quelques années par le style de Chanel. Et le style Chanel un peu épuré, le style de la garçonne, hein, pour reprendre le titre du roman de Victor Marguerite, que lui aussi on a oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque avait fait un scandale énorme. Donc le style de la garçonne, qui est emblématique des années folles, en fait, des années 20, de cette après-guerre, ça devient le style Chanel. Donc en fait, elle est vraiment l'emblème de son époque. Elle devient le symbole. Hein, quand on regarde les vieilles photos des années 20, on retrouve ce style épuré, dépouillé, qui est complètement différent de ce qui se faisait 10 ou 20 ans avant.
Elle dresse un nouveau portrait de la femme à l'époque.
Voilà, c'est ça. C'est qu'elle enlève toutes les fanfreluches, les corsets, les robes interminables, etc. Donc c'est des vêtements en fait beaucoup plus pratiques, qui se portent plus facilement, qui sont un peu dans l'air du temps, puisque les femmes pendant la guerre, pour un bon nombre d'entre elles, avaient également travaillé manuellement pour remplacer les hommes qui étaient au front. Et donc son style est en fait colle bien à l'air du temps.
Et le succès est croissant malgré la perte de son ami qui la soutient depuis tant d'années.
Oui, donc en 1919, Arthur Cappel meurt dans un accident de voiture. Évidemment, elle en était amoureuse et évidemment, c'est un choc personnel. Mais son entreprise financièrement survit puisque désormais, elle a les reins assez solides pour être autonome financièrement. Au début, elle était totalement dépendante des investissements et des garanties qu'apportait Cappel pour avoir des prêts bancaires. Mais après la guerre, le succès est tel qu'elle est complètement autonome et qu'elle commence à devenir d'ailleurs extrêmement riche.
Et ça prouve bien son caractère d'indépendant, parce qu'il faut dire que sa vie perso, elle est complètement à l'image de cette vision qu'elle a de la femme.
Oui, donc elle a aucune envie d'être mariée avec des enfants et de prendre le thé avec les copines le dimanche après-midi. Elle veut être une femme d'affaires, une entrepreneuse indépendante, choisir les relations qu'elle veut avoir avec les hommes. Donc elle fréquente toute la grande société parisienne et étrangère, hein, puisqu'elle aura une relation avec le duc de Westminster, elle rencontre Churchill. Ça devient vraiment une personnalité très en vue à l'échelle mondiale, hein, dans les années 20.
Et son plus gros succès, il vient ensuite, grâce au parfum.
Oui, donc Chanel, c'est le très célèbre numéro 5. Donc ce parfum qui a été lancé en 1921, qui a été appelé numéro 5 un petit peu par hasard, puisqu'on avait proposé à Gabriel plusieurs échantillons. Et celui qui le plaisait, c'était l'échantillon numéro 5. Donc quand il a fallu choisir un nom de parfum, elle l'a appelé numéro 5.
Elle s'est pas embêtée, quoi.
Elle s'est pas embêtée et ça colle totalement à son style, puisque les parfums à l'époque... ils avaient toujours des noms un petit peu, je sais pas, fleurs des tropiques ou
un peu alambiquées.
Toutes sortes, enfin des choses un peu comme, voilà, des choses un peu alambiquées. Et elle, non, c'est son style épuré, c'est numéro 5.
Et d'ailleurs, même le flacon est complètement épuré.
Le flacon est complètement épuré, c'est une espèce de rectangle transparent. Avant, les verres de flacon étaient opaques, on voyait pas le parfum à l'intérieur. Et les flacons, avant le numéro 5, il y avait toujours des décors un peu somptueux, des plumes, des fanfreluches. Et donc le numéro 5, c'est l'incarnation du style Chanel, très simple, très sobre, très épuré. Et c'est bien sûr un succès gigantesque qui, en fait, depuis cette date, c'est la vache à lait de la maison Chanel. Hein. La partie couture a régulièrement perdu de l'argent, mais le numéro 5, c'est toujours extrêmement bien vendu et a toujours renfloué les caisses de Chanel.
Elle adapte un peu les mêmes méthodes qu'elle a adaptées à la mode, mais au monde du parfum.
Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que vont arriver des actionnaires très importants qui vont jouer un rôle déterminant dans la suite de la maison Chanel. C'est les frères Wertheimer, donc qui avaient la maison bourgeois de cosmétiques, puisque elle savait faire des chapeaux, des robes, mais le monde de la parfumerie lui était étranger. Donc quand elle lance le numéro 5, elle a besoin de s'associer avec des spécialistes de la parfumerie. Et donc c'est les frères Wertheimer qui, on va le voir, sont devenus les propriétaires de Chanel et qui aujourd'hui sont une des familles les plus riches de France, puisqu'ils sont les actionnaires de Chanel.
Et donc à l'époque, tu le dis, hein, Gabrielle, elle est très célèbre, elle est toujours en bonne compagnie et elle rencontre de plus en plus de grandes personnalités du monde.
Oui, c'est... une des personnalités en vue des années 20 et des années 30. Donc on a parlé du duc de Westminster. Il y aurait eu certainement beaucoup d'autres amants célèbres, mais là on va pas rentrer dans les ragots et puis on n'en est pas forcément très sûr. On n'est pas là pour faire la page People, mais c'est effectivement une des personnalités les plus emblématiques de son époque.
Mais évidemment, à l'époque, le succès, il va être un peu freiné avec la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, donc en 1940, donc quand les troupes allemandes envahissent Paris, donc c'est évidemment l'arrêt, quasiment l'arrêt de l'industrie du luxe. Et Chanel, contrairement à d'autres maisons, licencie toutes ses couturières. Donc certaines maisons ont continué à, on va dire, vivoter pendant la guerre, puisqu'il y avait quand même beaucoup moins d'activité. Mais elle décide de fermer sa maison donc de couture. Elle garde que les parfums, qui continuent à se vendre un peu, notamment aux États-Unis sous licence. Et elle s'installe donc au Ritz, juste derrière la rue Cambon, juste derrière ses bureaux. Donc le Ritz qui est à l'époque occupé, réquisitionné par les Allemands pour y faire des bureaux et des logements pour les gradés allemands. Et elle va passer donc toute la guerre à vivre donc au Ritz à côté des Allemands qui, au vu de son prestige, acceptent qu'elle continue à habiter là.
On est quand même dans une période un peu floue.
Oui, alors donc on sait qu'elle a eu une relation avec un officier allemand. On sait aussi qu'elle a des opinions, disons, très à droite. Lors des grèves du Front populaire, elle avait très mal pris que ses ouvrières fassent grève.
C'était une anticommuniste, elle.
C'était une anticommuniste. Alors, paradoxalement, assez proche de l'Angleterre aussi. Donc elle n'était pas forcément pro-allemand, mais enfin, elle aimait bien...
Elle n'était pas pro-nazisme.
Elle n'était pas pro-nazie, voilà. Mais le côté un peu homme fort ne lui déplaisait pas forcément non plus. Et clairement, elle fréquente tous les officiers nazis au Ritz, et ça ne lui pose absolument aucun problème. Alors, c'est vrai que la période est très floue, puisque elle aurait... Alors, selon certains, elle aurait été espionne au service des Allemands. Selon d'autres, elle aurait essayé de contacter Churchill pour mettre fin à la guerre et mettre fin au combat, pour essayer de le convaincre, hein, puisqu'elle connaissait personnellement Churchill. Donc la période est très troublée. Et encore une fois, c'est difficile de savoir précisément...
Il y a peut-être un peu beaucoup de fantasmes autour de tout ça. Elle a peut-être juste essayé de survivre.
Oui, en fait, on ne sait pas exactement. Alors, ce qui est sûr, c'est que elle voyait pas forcément d'un mauvais œil la cohabitation avec les nazis, ce qui a été bien sûr extrêmement reproché après la guerre. Donc, au moment de l'épuration, elle est, on va dire, passée entre les gouttes, peut-être par son amitié avec Churchill. Là encore, on ne sait pas trop, mais il se pourrait. Enfin, certains disent que le fait qu'elle était amie de Churchill lui aurait arrangé un peu ses bidons à la libération. Toujours est-il qu'elle va aller en Suisse pendant quelques années, se faire un petit peu oublier.
Elle va se mettre au vert, tranquille.
Voilà, elle va se mettre au vert parce qu'elle sent qu'à Paris, l'ambiance lui est pas trop favorable à la fin des années 40. Et donc, pendant quelques années, elle va continuer à gérer sa maison qui tourne un peu au ralenti, hein, donc depuis Genève.
Elle décide de revenir, quand il lui est possible, à Paris en 1953 et du coup de se relancer dans la bataille pour pas se laisser dépasser.
Voilà, donc elle comprend bien que si elle reste en Suisse, elle pourra pas relancer vraiment sa maison. Donc en 1953, il y a des lois d'amnistie qui sont votées, donc elle peut revenir à Paris sans rien risquer d'un point de vue juridique. Et alors le problème à ce moment-là pour Chanel, c'est que La tendance, l'air du temps dans la mode a complètement changé. L'air du temps, au début des années 50, c'est le new look de Dior, qui est en fait le contre-pied de Chanel. Donc en 46, quand Dior lance sa célèbre création qu'on baptisera le new look, c'est beaucoup de tissus, des grandes robes. On revient un petit peu au style presque du 19e siècle, d'une certaine façon. Donc c'est un peu l'inverse de ce que faisait Chanel. Donc elle revient sur la scène de la mode parisienne, un peu à contre-courant de l'ère du temps. Et les premières collections qu'elle va essayer de relancer vont être un échec assez cuisant. En fait, la mode a continué son mouvement un peu sans elle. Et donc, quand elle essaie de se relancer, elle est un peu à contre-temps de son époque.
Ce qui va la pousser quand même à céder sa société à son associé.
Voilà, donc elle perd beaucoup d'argent et elle est un peu dos au mur. Et donc, elle va passer un accord avec son associé, donc Pierre Wertheimer. avec qui elle s'entend pas du tout, hein, puisque alors il y a eu aussi entre elle et son associé pendant la guerre des relations probablement assez troubles, puisque Wertheimer était donc juif, parti aux États-Unis pour éviter les persécutions, et Chanel aurait, donc là encore on parle au conditionnel, aurait essayé de d'évincer Wertheimer pour reprendre le contrôle total sur les parfums notamment, et notamment avec ses connaissances auprès des nazis. Il aurait essayé de dire, bah, mon associé il est juif, il faut pas lui laisser ses parts, etc. Mais bon, là on parle au conditionnel, donc les relations entre Chanel et Wertheimer sont exécrables, mais tous deux vont un peu enterrer la hache de guerre et vont faire une sorte de pacte, c'est-à-dire que Chanel, qui se retrouve après l'échec de ses premières collections un petit peu fauché, il faut le dire, va céder sa maison à Wertheimer, donc l'ensemble des actions, en échange de quoi Pierre Wertheimer lui assure un train de vie princier jusqu'à la fin de ses jours et finance encore ses nouvelles collections.
Et c'est pour ça que la maison appartient encore,
voilà,
à cette famille.
La maison appartient à cette famille puisque Gabriel Chanel leur a cédé les parts, en échange de quoi ils ont assuré son train de vie et développé ses collections jusqu'à sa mort.
Et c'est grâce à ces fonds qu'elle va continuer à innover, elle va inventer notamment une tenue iconique.
Oui, donc Chanel n'est pas encore enterrée. Elle va inventer notamment le tailleur, en tout cas le populariser. Donc le tailleur, par exemple, de Jackie Kennedy, le jour où son mari a été assassiné, c'était un tailleur Chanel.
Oui, qui est un peu maintenant la marque de fabrique de Chanel.
Voilà, elle va réussir à se relancer dans les années, fin des années 50, années 60, avec le tailleur qu'elle va populariser et qui va devenir un peu l'emblème de sa maison.
Elle travaille quasiment jusqu'à la fin.
Oui, c'est une acharnée, un bourreau de travail sur la fin de sa vie qui est peut-être devenu un petit peu aigri, qui passe beaucoup de temps à critiquer un peu tout le monde, un peu l'air du temps, un peu les nouveaux couturiers, etc. Et qui décède assez seul en fait en 1971, assez seul et avec plus beaucoup d'amis, puisqu'à force de critiquer tout le monde, pas mal de gens ne l'aimaient plus forcément beaucoup.
Et elle décède au Ritz.
Au Ritz, voilà, où elle habitait depuis plus de 20 ans. Quoi. À part l'intermède en Suisse, mais elle avait ses appartements au Ritz.
On retiendra de Coco Chanel donc une vie qui a été une suite de combats pour son indépendance, et même plus généralement, via la mode, pour l'indépendance des femmes. Et elle arriva à marquer de son empreinte la vision de la femme moderne qui lui servit encore aujourd'hui. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je vous donne rendez-vous évidemment dans 15 jours pour un nouveau portrait. Et puis vous pouvez évidemment aller réécouter tous ces anciens épisodes d'Entrepreneurs des Légendes sur CDI Podcast ou sur la plateforme audio que vous préférez utiliser. À bientôt.
CDI Podcast. Entrepreneurs de Légendes.